Voilà, on pourrait y passer tout l'après-midi, hein, Héloïse, dans cette forêt tropicale. Et ce sont bien justement tous ces sons que nous entendons qui nous intéressent à la une de la science aujourd'hui. Hein.
Absolument, Mathieu. Oui, suivre l'évolution de la forêt tropicale, c'est crucial parce qu'elle abrite environ 80% de la biodiversité de la planète. Alors, pour prendre des nouvelles de la forêt, on peut l'observer par satellite. Mais cette visualisation nous dit seulement où elle a perdu du terrain et où elle est encore debout. Mmh. Elle nous renseigne très peu sur les espèces d'animaux qui vivent dans la forêt qui, à première vue, semblent intègres. Non, le mieux pour savoir ce qui s'y passe, ce n'est pas de regarder la forêt équatoriale, mais de l'écouter. Un article vient d'être publié dans la revue Science et il nous explique en quoi la bioacoustique, c'est-à-dire l'écoute des milieux naturels, est un excellent moyen de surveiller l'évolution de cette biodiversité. Alors pour en parler, nous sommes au téléphone avec Thierry Aubin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur au CNRS et à la tête de l'équipe communication acoustique de l'université Paris-Saclay. Alors pour commencer, je crois qu'on peut dire que vous, des forêts équatoriales, vous en avez beaucoup écouté à travers le monde.
Ah oui, tout à fait, oui. On a beaucoup écouté effectivement ces forêts. Oui.
Et alors en pratique, comment on fait pour écouter une forêt? Parce que c'est assez grand. On met des micro-cravates aux arbres, tout simplement. Expliquez-nous succinctement comment ça fonctionne.
Ben, écoutez, on met il y a de plus en plus dans le commerce d'ailleurs, à des prix assez faibles, des petits appareils automatiques qui ont des micros. Donc on peut disperser comme ça dans la forêt et écouter comme ça la forêt et les bruits de la forêt.
Et alors la forêt tropicale, est-ce que c'est un milieu facile à écouter ou peut-être plus difficile que d'autres milieux naturels?
C'est un milieu, je répondrai un peu les deux. Au niveau conception, c'est vraiment un milieu à écouter parce que les animaux finalement peuvent utiliser des signaux visuels puisqu'il y a une barrière d'obstacles de végétaux énorme. Et donc ils vont utiliser beaucoup les signalisations acoustiques. Par contre, c'est un milieu qui pour le son est pas forcément idéal puisque c'est un milieu qu'on qualifie de très absorbant pour le son, en particulier pour toutes les fréquences aiguës, mais même les fréquences graves à relativement courte distance sont absorbées.
Et alors, on a écouté ce petit extrait sonore, on entend beaucoup de choses. Est-ce que les animaux dans la forêt sont plutôt bavards ou alors il y a beaucoup d'espèces muettes qu'on ne peut pas écouter?
Pour les raisons que j'ai évoquées tout de suite, là, c'est en fait, ils sont assez bavards parce qu'ils ont peu d'autres solutions de communiquer. Hein. Donc le visuel ne marche pas, donc il leur reste l'olfaction et l'acoustique. Et donc ils sont en général très bavards et il y a peu d'espèces muettes. Effectivement.
Alors, ça doit être un espèce de capharnaüm quand on réécoute les bandes-son. On a l'impression d'un magma de son. Les espèces ne se coupent la parole, elles parlent toutes en même temps. C'est la réalité de ce que vous entendez?
En fait, les animaux, pour communiquer efficacement, peuvent développer des stratégies, c'est-à-dire ne pas parler en même temps. Profiter de périodes de silence relativement courtes pour lancer leurs signaux, ou alors ne pas parler en même temps dans la journée également, ou alors changer des fréquences, c'est-à-dire ne pas utiliser des signaux aux mêmes fréquences que les voisins qui occupent une fréquence, une bande de fréquences si vous voulez.
Et alors concrètement, pour revenir à cette histoire de biodiversité, vous pouvez localiser et compter les individus et donc suivre l'évolution des espèces?
Oui, bien sûr. D'abord, on peut compter soit des communautés, voire ça, c'est un peu le travail de l'écho-acoustique, d'ailleurs, c'est des Français qui ont beaucoup œuvré dans ce domaine depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, en particulier, par exemple, Jérôme Sueur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on peut donc compter soit des communautés d'animaux, soit des espèces, soit des individus. Parce que chaque individu, c'est comme l'être humain, hein, on a chacun notre propre voix. Et ça, on peut, par analyse, distinguer des individus différents. Donc on peut faire du comptage de communautés, d'espèces, d'individus.
Donc ça donne une bonne idée, Thierry Aubin, de la biodiversité justement de la forêt tropicale, cette écoute des sons.
Oui, bien sûr, ça peut donner une bonne idée et pratiquer par exemple un suivi d'une année à l'autre, comme c'est expliqué par exemple dans l'article, permet de savoir si le nombre d'espèces a diminué, si la richesse en son est moins grande. Et on peut, pour répondre aussi à l'autre partie de la question, on peut effectivement par les sons localiser des animaux très précisément, hein, c'est ce que nous faisons nous en forêt amazonienne, et en fait il suffit de mettre plusieurs micros si vous voulez, théoriquement si vous mettez 4 micros qui écoutent, comme le son met un certain temps à voyager, il arrivera sur un premier micro, puis sur un second, puis sur un troisième, avec des délais de temps. Et ces délais de temps nous permet, par une opération, ce qui s'appelle la triangulation, de précisément localiser l'émetteur, l'individu qui vient d'émettre.
Et je connais déjà un peu la réponse, mais étant donné les mauvaises nouvelles qui nous arrivent, on imagine qu'on entend de moins en moins d'animaux dans la forêt tropicale, vous nous le confirmez ?
Oui, bien évidemment. Ça a été d'ailleurs assez montré par des éco-acousticiens, hein, en particulier par exemple par Bernie Krause dans le passé, qui a enregistré une même forêt à différentes années, tous les 5 ou 10 ans, je ne me souviens plus, tous les 10 ans, je crois. Et il a bien montré qu'on allait vers un silence, on partait d'une cacophonie. On allait vers un silence, ce qui veut dire que les espèces disparaissent.
Merci beaucoup en tout cas Thierry Aubin pour ces explications et cet écho de votre travail précisément de bioacousticien, entre autres dans les forêts tropicales du monde. Merci à vous et donc publication qui vient de paraître dans Science. Merci beaucoup Héloïse, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la France qui vient de se doter d'un des plus puissants supercalculateurs d'Europe, HPCIA, c'est son nom. Sa puissance de travail est équivalente à celle de 15 000 ordinateurs de dernière génération. La capacité de calcul de notre pays est désormais doublée, capable de traiter de gros volumes de données, d'effectuer des calculs complexes. Ce super ordinateur pourra aider les scientifiques dans des domaines aussi variés que la recherche en intelligence artificielle, la simulation de changement climatique ou encore la conception de nouveaux médicaments. Ce petit bijou technologique sera installé au centre de calcul du CNRS en région parisienne et devrait être accessible à partir de septembre prochain. Une école d'apiculture dont la création avait été annoncée par l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg ouvrira ses portes lundi prochain à Dijon. L'école des hautes études en apiculture a pour but de former des entrepreneurs apiculteurs capables de produire du miel avec des cheptels de grande taille et ainsi contribuer au repeuplement des abeilles. La disparition de ces insectes mellifères absolument nécessaires à la pollinisation est un véritable problème de société, vous le savez. Et puis un crâne dictyosaure marin fossile géant qui avait été découvert dans un champ du centre de l'Angleterre en 1955 a été étudié pour la première fois. Le fossile du reptile qui mesure presque 1 mètre de long est vieux de plus de 200 millions d'années grâce à l'utilisation d'une technologie d'imagerie médicale de pointe. Des scientifiques de l'université de Manchester ont pu reconstruire son crâne entier en 3D. C'est la première fois qu'une telle reconstruction numérique du crâne d'un grand reptile marin est mise à la disposition du public et à des fins de recherche. Bien que des milliers de fossiles d'ichthyosaures aient été découverts au Royaume-Uni, ce spécimen est particulièrement important en raison de son excellent état de conservation.